Jean-Pierre Elkabbach, votre invité ce matin, la ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni.
Madame Tzipi Livni, bonjour.
Bonjour.
Et merci de recevoir Europe 1. Vous parlez un peu français ?
Oui.
Vous comprenez ?
Oui, presque tous.
Ah oui ?
Ouais.
Donc, et vous pouvez me répondre en français ?
Non.
Mais on fera l'expérience sur quelques mots. Vous venez de passer en effet quelques heures à Paris et vous avez été reçu par le président Sarkozy et par Bernard Kouchner. On en parlera tout à l'heure. Nous sommes à une semaine, jour pour jour, du premier anniversaire du déclenchement de la guerre du Liban. Est-ce qu'il est vrai qu'il existe des risques d'un nouveau conflit et qu'Israël et la région s'y préparent?
Cela dépend énormément de ce qui se passera au Liban. Cela dépend de la Syrie beaucoup. Cela dépend beaucoup de l'Iran. Cela dépend du Hamas. En fin de compte, si l'on compare la situation aujourd'hui au Liban à la situation d'il y a un an, il y a une amélioration au sud Liban. L'armée libanaise s'est déployée au sud. Les forces internationales, y compris des forces importantes françaises, ont changé la donne et la situation. Ce qui est regrettable et problématique, c'est le fait que la frontière entre la Syrie et le Liban soit ouverte à la contrebande d'armes. Le Hezbollah est en train de se renforcer, de se réarmer. Le Hezbollah ne sert pas les intérêts libanais, et le Hezbollah et les Syriens sont intéressés à une instabilité dans la région.
Donc vous avez une crainte, soit de la part d'Israël à titre préventif, soit d'une provocation ou d'une agression des milices palestiniennes affiliées à Damas, ou alors carrément le Hezbollah.
Actuellement, Israël œuvre afin de se mesurer aux menaces existantes, et ce, en dépendant de l'existence de la menace du point de vue du Liban. Nous attendons que l'armée libanaise et les forces internationales contrôlent les zones qui doivent être contrôlées et empêchent le Hezbollah de se réarmer ou d'attaquer. L'ONU a un rôle extrêmement important dans ce domaine.
Ça fait un an qu'on le dit, surtout sur la frontière syro-libanaise. Kofi Annan le disait et M. Ban Ki-moon aussi. Les Nations Unies ont confirmé, comme vous le dites vous-même, Mme Tzipi Livni, un réarmement massif des Hezbollah avec le soutien de l'Iran et de la Syrie. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous allez faire pour freiner le flot d'armes qui passe?
Nous attendons que l'ONU prenne une action univoque et claire. Il est vrai que l'ONU aujourd'hui sait, et cela fait partie des rapports de l'ONU au Conseil de sécurité. Nous attendons qu'au mois d'août, une nouvelle résolution soit prise qui applique et fasse appliquer l'embargo sur les armes, y compris le contrôle international pour la frontière syro-libanaise, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas une menace seulement pour Israël, c'est une menace pour les forces internationales, c'est une menace pour le Liban. Et nous attendons une action claire de la part de l'ONU.
Si vous me permettez, Mme Tzipi Livni, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous êtes préoccupé ? Est-ce qu'il y a une crainte en Israël et pour la région, là, dans les semaines qui viennent ?
Nous vivons dans une région où il y a constamment des menaces. Notre rôle en tant que gouvernement, c'est de défendre nos citoyens. Notre attente est qu'au Liban, la communauté internationale prenne face des actes, agisse, et nous espérons éviter le conflit. Nous ne cherchons pas le conflit.
Je note que vous voulez une nouvelle résolution au mois d'août des Nations Unies. Le secrétaire général Ban Ki-moon raconte qu'en plus des armes, les miliciens, je ne sais pas si c'est vrai, à la frontière syro-libanaise, reçoivent régulièrement des repas chauds fournis par les traiteurs de la Syrie. C'est vrai,
ça ? Il y a un rapport extrêmement grave qui a été fait par le secrétaire général des États-Unis. Les repas chauds, ce n'est pas notre problème. Nous, nous parlons d'armes chaudes, très chaudes.
Oui, oui, oui. Et mortelle et meurtrière. La guerre de 2006, elle n'a rien réglé. Un an après, est-ce qu'Israël peut reconnaître que la bonne cible, c'était pas le Liban et les Hezbollah, mais il y avait peut-être quelqu'un d'autre à viser plus directement?
Israël a pris une décision stratégique de porter atteinte au Hezbollah et de ne pas toucher au Liban en tant qu'État. ce il y a un an.
Israël
aurait pu vaincre l'État libanais en deux jours.
Mais
comme le gouvernement s'ignora, comme le gouvernement s'ignora, est important tant aux yeux de la communauté internationale que du point de vue israélien, c'est le gouvernement qui représente les plus modérés. Et comme nous n'avons pas de conflit véritable entre Israël et le Liban, nous avons choisi d'attaquer le Hezbollah. Mais il faut comprendre aujourd'hui que dans le monde moderne, les organisations terroristes qui sont abritées dans la population civile, qui exploitent l'accueil de certains États, c'est une autre forme de combat, une autre forme de guerre.
La commission d'enquête Vinograd, qui avait donné un rapport d'enquête et qui d'étape et qui va donner son rapport, est très sévère pour le gouvernement Olmert, je vous apprends rien, pour son armée, ses généraux. Est-ce qu'avec l'arrivée de l'ancien général et premier ministre Ehud Barak, les Israéliens sont plus en sécurité et Tzahal est en train de se réorganiser?
Tzahal se réorganise, a commencé à se réorganiser tout de suite après la guerre. Comme membre du gouvernement, nous sommes constamment mis à jour et ce qui se fait est très impressionnant.
Et
je suis très heureuse que Ehud Barak se soit joint au gouvernement. J'ai beaucoup d'estime pour Ehud Barak. Et en fin de compte, Israël est prêt aujourd'hui à se mesurer aux menaces qui existe, mais une remarque encore qui me semble très importante. La situation aujourd'hui au sud Liban est meilleure que celle qu'elle était par le passé. Il y a encore beaucoup à faire, mais la situation est bien meilleure.
Le Hamas a libéré mon confrère britannique Alan Johnson, vous le savez. Le Hamas vous adresse en même temps un message. Comment vous répondez?
Quel est ce message, à votre avis, du Hamas? C'est quoi?
Qu'il peut tenir une partie de Gaza, qu'il peut avoir l'occasion de remettre de l'ordre et que peut-être il rendra aussi le soldat chalit.
Le Hamas est sous pression. Et c'est très bien.
Il faut continuer la pression.
La réponse est oui.
Je suis,
du point de vue humanitaire, très heureuse de la libération d'Alan Johnston. Mais le Hamas est sous pression parce qu'il comprend très bien qu'il a une alternative, qu'il y a une alternative au Hamas. Il y a un nouveau gouvernement dans l'autorité palestinienne. Et Israël va coopérer avec ce nouveau gouvernement palestinien. Israël va continuer à faire pression en parallèle sur le Hamas. Si le Hamas veut être partenaire du point de vue d'Israël, la réponse est très simple. Reconnaissez l'existence de l'État d'Israël, cessez d'utiliser la violence et le terrorisme et acceptez, respectez les accords précédemment signés. Ce sont trois conditions qui ont été posées par la communauté internationale.
Voilà, les conditions elles reviennent régulièrement. Si jamais le Hamas faisait, vous parleriez avec lui? Parce que Israël a fini toujours par dialoguer avec l'OLP. On se souvient des poignées de main de Rabin et d'Arafat. Qui sera le Menahem Begin qui avait parlé avec l'Égyptien Sadat? Vous connaissez la chanson. Qui sera le Rabin qui parlait avec Arafat? Qui parlera avec le Hamas un jour? Vous peut-être?
Israël ne parle pas avec le Hamas, pas à cause de l'histoire, pas à cause du passé terroriste et pour le présent terroriste qui est celui du Hamas, mais parce que le Hamas ne peut proposer aucun espoir, ni aux Palestiniens, ni aux Israéliens. C'est une organisation idéologique, islamiste extrémiste, qui ne se bat pas pour défendre les droits du peuple palestinien, mais qui essaie d'empêcher quiconque de vivre dans cette région.
Il faut peut-être laisser les Palestiniens répondre à cette question même. Mais à Gaza, qui est entre les mains du Hamas, et vous avez dit une enclave d'extrémistes, elle est aux portes d'Israël avec des armes, le Hamas, qui viennent peut-être, vous l'avez dit, de Syrie et d'Iran. Comment on évite la contagion et l'influence du Hamas?
Gaza est un nouveau danger du point de vue d'Israël. Mais la mise en place du nouveau gouvernement palestinien est une nouvelle occasion. Je suis d'accord qu'en fin de compte, les Palestiniens sont ceux qui devront choisir qui va les diriger. Mais il n'y a pas de démocratie au monde qui permette à une organisation terroriste de participer à un processus électoral. Du point de vue des Palestiniens, ils ont deux alternatives. La première, c'est le terrorisme, le désespoir, l'islamisme extrémiste, c'est ce que leur propose et représente le Hamas. La deuxième option, c'est une vie normale, un processus de paix avec Israël. J'espère qu'avec un État qui leur sera propre enfin, et les seuls qui peuvent leur fournir cela, ce sont les éléments modérés.
C'est quand l'État palestinien?
J'espère que les Palestiniens...
C'est quand l'État? Parce que vous avez dit l'État, quand?
À
quelles conditions?
Un État palestinien est aussi un intérêt israélien, mais à la condition que cet État réponde à des conditions de base. L'une de ces conditions, c'est que ce ne soit pas un État terroriste, que ce ne soit pas un État qui menace l'existence d'Israël. Et la preuve de cela, eh bien, c'est... En fait, la nécessité de faire preuve est sur les épaules des Palestiniens. Israël est actuellement dans un processus de dialogue avec les éléments modérés.
Madame Tzibibli, on dit que le président égyptien Moubarak est en train d'aider Israël à récupérer votre soldat Gilad Shalit. C'est vrai?
Ouais.
Vous le confirmez.
Les
Égyptiens sont impliqués dans les négociations pour libérer Gilad Shalit.
Et vous avez l'espoir de le retrouver vivant bientôt?
Allez-y,
Dites-nous la vérité.
Nous espérons et nous prions. Mais c'est le type de choses où toute parole supplémentaire en public ne peut que porter tort. Il vaut mieux se taire.
Je respecte et je note la confirmation. Aujourd'hui, les Américains, les Européens, les Français, bien sûr, les Russes cherchent à protéger ou à sauver Mahmoud Abbas. Mais est-ce que c'est pas vous qui avez entre vos mains la capacité de renforcer Mahmoud Abbas? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites?
C'est aussi entre les mains d'Israël, mais c'est aussi entre les mains de Mahmoud Abbas.
Israël
a décidé
d'aider.
Israël a décidé d'aider, Israël a transféré des fonds au gouvernement palestinien, au nouveau gouvernement palestinien. Israël va libérer des prisonniers du Fatah.
Combien?
250.
Sur combien de prisonniers?
Il y a beaucoup de prisonniers, mais il faut se souvenir cette libération était déjà au départ une surprise pour Mahmoud Abbas. Il ne s'y attendait pas. Il ne s'attendait pas à un tel geste, alors que notre soldat est aux mains du Hamas. Mais encore une fois, il est très, très, très important que Mahmoud Abbas continue à préserver cette distinction très claire entre le nouveau gouvernement palestinien et le Hamas. Israël peut travailler avec ce gouvernement qui n'est pas le Hamas, qui n'est pas un gouvernement d'union nationale, qui n'est pas un mélange entre modérés et extrémistes, mais qui n'est qu'un gouvernement modéré de modérés qui veulent arriver à un État qui leur soit propre et qui ne soit pas un État terroriste.
C'est Pélévni. Maintenant la France. Vous avez eu un long entretien à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy. D'abord, comment vous l'avez trouvé? Vous le connaissiez déjà, vous l'avez vu, comment vous l'avez trouvé depuis qu'il est président. Est-ce que vous estimez qu'entre la France et Israël se dessine une conception, un ton nouveau?
J'ai trouvé le président Sarkozy extrêmement impressionnant, comme toujours. Plein d'énergie.
Ah, que vous voulez faire plaisir aux Français.
Écoutez, si on me connaît, on sait très bien que je ne donne pas de vains compliments. Je suis même parfois à la limite de l'impolitesse. Alors là, je tiens à vous dire que j'ai rencontré une personne qui comprend profondément les choses et qui comprend les menaces qui pèsent sur la région, qui comprend exactement ce qu'il y a à faire et qui comprend profondément que quand on soutient la bonne cause, cela aide tant Israël que les modérés de l'autorité palestinienne, que le monde arabe pragmatique. Et c'est la signification, c'est ça, le rôle d'un vrai dirigeant.
Est-ce que vous l'avez invité, le président de la République, à une visite prochaine en Israël?
Tout Israélien, quel qu'il soit, sera ravi de voir le président Sarkozy arriver en Israël. Il y a énormément d'estime en Israël pour le président Sarkozy.
Et qu'est-ce que vous avez obtenu de cette visite et de ces entretiens avec l'homme qui vous a impressionné?
Non, je ne suis pas venu avec mon panier pour faire mes courses. Je suis persuadé que dans les relations entre amis...
ou ce genre de courses.
Paris, ça donne envie de faire des courses, il faut dire.
Vous partez vite pour ne pas avoir la tentation.
Pas OK et pas à l'Elysée, non. C'est pas là que je fais mes courses. Ces conversations étaient extrêmement importantes tout de suite après les élections en France, après les derniers événements dans l'autorité palestinienne, tout en voyant ce qui se passe au Liban et les processus de la communauté internationale face à l'Iran. Et entre amis aussi, il faut parler en profondeur et voir comment promouvoir ensemble nos intérêts communs.
Est-ce que vous pensez qu'on peut être en même temps un ami d'Israël et un partenaire des pays arabes et des Palestiniens? Et est-ce que vous pensez que ça peut être utile? Ou alors il faut être l'ami d'Israël et puis c'est tout?
Mais c'est évident. Celui qui ne comprend pas ça vit dans la politique du passé. Cela fait bien longtemps que le monde ne se divise plus entre Israël face aux Palestiniens ou le monde arabe face à Israël. Tout le monde arabe comprend bien aujourd'hui que la menace vient de l'Iran, vient du Hezbollah, vient du Hamas, qui représente un islamisme extrémiste qui est subversif dans chacun de ses États.
Ben, les Anglais le savent et toutes les capitales européenne.
Et aujourd'hui, toutes les capitales arabes et musulmanes le comprennent aussi. C'est la raison pour laquelle ils comprennent que nous avons des intérêts communs et ce qu'il faut décider de faire, ce n'est, la question, ce n'est pas entre Israël et les Palestiniens, Israël et les Arabes, mais entre les extrémistes ou les modérés. C'est là qu'il faut prendre parti. Et nous, par définition, nous sommes du côté des modérés. La France, de façon claire et nette, est du côté modéré. Et une partie du monde arabe fait aussi partie de ce camp.
Et les Marocains, ils font partie des modérés, puisque vous avez vu, quand vous étiez à Paris, le ministre du roi Mohamed VI. Est-ce qu'ils sont utiles par tradition, ils ont des contacts entre les pays arabes et Israël? Vous pensez qu'ils jouent un rôle important, comme les Français?
Mais bien entendu, ce rendez-vous a été extrêmement important. Il faut bien comprendre, pendant une très longue période, beaucoup d'États arabes ne voulaient pas avoir de rencontres publiques et officielles avec Israël. Aujourd'hui, on comprend bien que nous sommes dans le même camp, que nous voyons les choses de la même manière, que nous avons le même point de vue, que nous avons des intérêts communs. Et le fait que ce rendez-vous a été un rendez-vous public et connu, c'est très important. Je voudrais voir d'autres pays arabes prendre le même type de mesures et je pense que le président Sarkozy peut là jouer un rôle extrêmement important justement dans ce domaine.
Le 14 juillet, Bernard Kouchner, je pense qu'il vous l'a dit, invite à Paris les représentants des différentes tendances du Liban, y compris le Hezbollah qui a des élus au Parlement libanais pour un dialogue sur l'avenir du Liban. Ça peut être utile ou ça vous choque un peu, vous?
Vous savez, je vis dans une région où rien ne me choque particulièrement.
Ça peut être utile alors, aussi?
Non. Je pense
qu'il
faut faire une distinction entre les éléments modérés et les éléments extrémistes. Je pense que le Hezbollah ne représente pas les intérêts du Liban et en règle générale, je pense que la signification de la démocratie, ce n'est pas un partenariat avec des milices armées, des organisations terroristes pour les mettre au pouvoir, mais ils doivent faire le choix avant d'arriver au pouvoir. Mais je ne juge certainement pas les décisions de la France dans ce domaine.
Merci de cet entretien pour Europe 1. Au revoir. À bientôt.
La ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni, était l'invitée d'Europe 1 ce matin.